l'écoute de l'émission Je suis Charlie, c'était Suis ton cœur, une nouveauté musicale francophone de Dom Lebeau, qui sera d'ailleurs en studio mercredi prochain, 14h30, pour nous parler de son parcours musical et nous interpréter d'ailleurs des pièces en direct. C'est l'heure de parler de lecture, parce que le 18 janvier prochain, vous aurez de disponible une nouveauté de l'auteur Mathilda Topé-Fortune, qui est actuellement au téléphone pour nous parler, elle aussi, de son parcours et de cette nouveauté. Bonjour!
Bonjour!
Merci beaucoup de prendre quelques minutes aujourd'hui.
Merci à vous.
Vous faites une entrée en littérature de l'imaginaire avec une nouvelle série de romans qui est inspirée de la mythologie nordique. Et avant de parler de cette nouveauté qui sera sous peu disponible, je veux parler de votre parcours. Alors, bien sûr, vous êtes auteur, mais vous êtes aussi diplômée en psychologie et en criminologie.
Oui, absolument. J'ai effectivement eu des diplômes en psychologie puis en criminologie. Ça se rejoint, la psychologie sans criminaux, il manque un petit peu quelque chose. Ça permet aussi de combler aussi les petits concepts qu'on veut, par exemple, quand on écrit. On peut choisir les petits psychologies des personnages et puis les trames au niveau de la criminalité. Donc, c'est toujours des notions qu'on reprend.
Mm-hmm. Ben, j'imagine que ces notions sont tout de même utiles lorsqu'on écrit, mais quand est-ce que vous avez décidé de un peu délaisser ce milieu pour aller vers l'écriture?
C'est vraiment la pandémie fait voir d'autres choses. mais c'est sûr que c'était quelque chose que je portais en moi depuis très longtemps. J'écrivais beaucoup, tout le temps. Je lisais tout le temps aussi de grands livres, beaucoup de livres. Et puis j'écrivais beaucoup de poèmes sur la mythologie grecque avec Eurydice, Orphée. Ça a toujours été une passion, ça a toujours été quelque chose que je voulais faire. Je me suis posée, puis j'ai décidé d'aller jusqu'au bout du projet.
Et mis à part une passion certaine pour l'écriture, pour la littérature, est-ce que vous avez un autre bagage dans ce domaine?
En littérature, non. pas du tout. C'est vraiment autodidacte, le fait de lire beaucoup, J'ai joué un petit peu de pièces de théâtre étant jeune, parce que je me suis fait remarquer par mon prof de français. Il a créé une petite groupe de théâtre et donc on a été faire des représentations. Mais à part ça, j'ai pas de bagage académique au niveau de la littérature. C'est vraiment quelque chose qui a été travaillé de façon personnelle et puis aussi avec l'apprentissage, avec la lecture, la constance de la lecture, c'est le bagage numéro un.
Mm-hmm. Mais quand vous lisez, quel type de lecture faites-vous?
De tout. Ça peut être des romans policiers, des romans d'amour, des romans de science-fiction, d'aventure, par exemple du Agatha Christie, du Cyrano de Bergerac, du Balzac, du Maupassant, donc ça peut vraiment du tout. Mais c'est pas une lecture que je fais de façon divertissante. Quand je lis, c'est aussi un apprentissage. J'ai toujours un dictionnaire à portée de main. Je vais faire une première lecture, mais je vais faire 10 autres lectures qui vont me faire voir l'histoire d'une autre façon.
Et l'outil, le fait d'utiliser le dictionnaire, sert à apprendre des nouveaux mots ou à aller plus loin dans la signification?
Oui, tout à fait. C'est le fait de, je peux pas comprendre une histoire sans me dire, j'ai raté un mot, j'ai pas compris la signification de l'auteur, j'ai pas, parce que des fois, un mot peut nous faire voir différentes façons de voir. On peut voir la façon dont le personnage il vit cela, et on peut voir comment l'auteur aussi, quelle est la direction apportée au récit. Donc, mm-hmm. Ça nous donne des indications et ça nous permet aussi de continuer aussi pour le rythme. Donc, c'est tout un, c'est toute une recherche. Le mot, il signifie pas seulement la signification, c'est vraiment, il rentre dans un tout.
Et est-ce que je me trompe en disant que la journée, justement, on se met en processus d'écriture pour un roman, peu importe la thématique? Il n'y a pas juste des recherches sur Internet qu'il faut faire, il y a aussi des recherches sur le terrain.
Oui, on doit, enfin, l'écrivain qui reste assis pour écrire, il va manquer quelque chose. Il faut vraiment le contact humain. Il y a toute la personnalité du personnage qui va évoluer tout au long de l'histoire. Ce sont des humains qui parlent ensemble, qui vivent des moments forts. Mm-hmm. Donc, il faut savoir s'extérioriser puis aller vers les autres et avoir une ouverture vers le monde.
Mm-hmm, vraiment, puis j'imagine que veux pas, à force de travailler sur le terrain et de faire ce genre de recherche, on perçoit, notre perception du quotidien doit être différente.
Oui, on voit la souffrance des autres, on la comprend. Chacun porte un petit bagage personnel, chacun a ses lots de vie, son histoire de vie, c'est tout... Tout est utilisable dans le sens que c'est un partage, mais c'est un partage qui reste quand même sincère et qui reste authentique.
Mm-hmm.
Il faut pas faire semblant. C'est pas sinon l'écriture, ça va se voir. La plume fait partie de l'être de l'auteur.
Puis en même temps, d'apprendre des choses sur les autres, autant les gens qu'on côtoie dans le quotidien ou des inconnus. Est-ce que vous considérez que vous avez appris des choses sur vous?
Absolument.
Oui.
Le fait d'écrire, d'aller jusqu'au bout du projet, ça m'a permis de me connaître, de savoir quelles sont mes limites, quel est mon taux de patience, quel est mon taux de frustration. Je veux dire, quand on réécrit 45 000 fois une ligne, qu'on reste 8 heures, 4 heures sur une phrase, on se dit, mais à un moment donné, est-ce que ça va, je vais réussir? Quel est mon niveau, ma tolérance au stress, à l'incertitude? Parce que l'écrivain reste beaucoup dans une zone de turbulence, où il doit se laisser aller avec mm-hmm. lui-même.
J'imagine, donc c'est vraiment un travail perpétuel sur soi-même.
Exactement. Mm-hmm. C'est du plaisir aussi.
Oui, ben, j'imagine qu'il y a des points positifs. Quel est le plus grand plaisir que vous avez lorsque vous écrivez? Est-ce que c'est de partager l'histoire avec les autres, le fait que les gens tôt ou tard vont lire l'œuvre?
C'est de visualiser la scène, c'est de le lire et de le voir, de voir que bon ben je suis arrivée à faire vivre des mots qui sont qui sont détachés les uns des autres. Et qui peuvent faire voir une scène. On la voit, on l'imagine, puis on la voit défiler. Ça c'est le must.
Et quand, parce que vous écrivez notamment dans le genre fantastique, quand on écrit des histoires, est-ce que c'est difficile d'en sortir? Parce que j'imagine que ça devient un peu notre réalité.
Non, ben au début oui. Je veux dire, quand on apprend à écrire et qu'on écrit pour la première fois, oui. C'est difficile d'en sortir. Par contre, après, ça devient comme du vélo. on sait qu'on va monter sur le vélo, qu'on va faire le parcours, on ne sait pas où est-ce qu'on va aller, mais on va profiter du paysage.
OK, donc
c'est ça aussi.
Et lorsqu'on écrit dans votre quotidien, j'imagine que vous écrivez au moins une fois par jour?
Oui, ça peut être une fois par jour. Et puis, ça peut être aussi de la réécriture. C'est beaucoup... Il y a le premier jet. On lance la première fois comment ça sort. Et puis ensuite, on le réécrit et le réécrit. Et on continue dans l'écriture, mais après, on revient dans ce qui a été initialement commencé. Et la réécriture, je dirais que c'est la majorité du temps d'un écrivain, c'est de recorriger, parce que c'est jamais... Il faut le recorriger pour retirer la pépite du tout, parce que ça prend du temps.
Mm-hmm. Est-ce qu'on réussit un jour à être satisfait et à dire, bon, c'est parfait, il n'y a rien à changer?
Oui, mais ça prend du temps.
Et ça prend combien de temps, ne serait-ce que d'écrire, là? Lorsque l'idée d'un livre, d'un roman germe en vous, ça prend combien de temps, tout le processus de création?
Alors, le premier, comme c'était la première fois, ça m'a pris plus de temps. Ça m'a pris 1 an et demi avant de le corriger, puis de l'écrire, de le mettre de côté, puis de le recorriger. Et même là, je l'ai recorrigé encore des années après. Disons, le deuxième, il a été très rapide. En 6 mois, c'était fini. Okay. C'était clôturé. Il y avait quelques corrections à faire. Donc, c'est ça, c'est vraiment l'habitude. Plus on le fait, plus on se connaît, plus on l'histoire est conçue et moins on a d'éléments à rajouter. Mm-hmm. Le plus gros, c'est vraiment la présentation, dans quel monde on est à la base du tout et on commence, donc c'est plus compliqué. Mm-hmm. Mais après, on a tous les autres outils, on a juste à les faire bouger comme si on avait des pantins.
Et justement, votre premier roman, le premier volet, mettait en scène l'histoire d'un prince le livre qui s'appelle Le prince Osfrid. Rapidement, ça parle de quoi?
Ça parle d'un prince qui a vécu des défis, qui avait tout pour réussir, qui était dans un royaume riche et qui, malheureusement, devient infirme et va devoir surmonter beaucoup de défis pour retrouver ce qu'il avait avant. Il va rencontrer des amis, il va rencontrer des épreuves et ça va le faire se connaître. Et puis il va rencontrer des dieux sur son chemin. Il va voir que le monde aussi est très différent de ce qu'il pensait. Il est beaucoup plus grand. Donc on a vraiment la notion d'interdit, mais d'ouverture d'esprit aussi. On a un tout autre homme à la fin du roman qui a évolué, qui a vécu beaucoup de souffrance, mais qui devient l'homme qu'il devait devenir. Dans le deuxième, qui sont les écrous du temps percé, c'est une saga familiale, donc c'est Edwin qui est son fils qui okay. va reprendre le flambeau du royaume, mais qui est pris par le dieu Loki et qui est emmené carrément à Montréal. Donc, toute l'histoire se passe à Montréal. Là, on n'est plus dans le conte merveilleux. On est vraiment dans un monde contemporain, avec des amis, avec un autre type de relation.
Et quand on dit Montréal, est-ce que c'est le Montréal qu'on connaît?
Oui, c'est le Montréal qu'on connaît, oui. Avec les métros Berry-UQAM, avec le Mont-Royal, avec des amis, avec les festivals de jazz, tout ça, oui.
Donc, c'est vraiment le Montréal moderne là, de notre époque.
Exactement.
Alors, est-ce que c'est facile de passer d'un univers un peu plus fantastique à un univers un peu plus réaliste?
Ça, c'est bien parce que c'est deux romans différents. Donc, c'est comme si c'était deux enfants différents. donc, ça se fait. Mais il y a quand même une explication logique là-dedans. La fantaisie permet de faire... d'ajouter des éléments qui sont extraordinaires dans un monde réel. Donc, on a toute l'explication du pourquoi et du comment.
Même si c'est un univers fantastique. Puis, justement, le second roman est catégorisé mythologie nordique. Lorsqu'on dit mythologie nordique, ça signifie quoi?
Ça signifie qu'on est dans le monde de Thor, on est dans le monde d'Odin, on est dans le monde de Loki. On a des interventions, il y a des dieux qui vont intervenir. Qui vont influencer la vie des êtres humains, qui vont se jouer d'eux et qui vont, il va y avoir des événements qui sont dus à cause des interventions des dieux. On peut aussi rentrer carrément dans leur royaume, dans leur monde, avec leurs créatures. On voit quelles sont leurs relations avec les autres dieux.
Et étant donné que c'est fantastique, il y a quand même des thématiques, évidemment, du quotidien, là, si je peux appeler ça ainsi, l'amour, l'amitié, la quête d'identité aussi qui est forte à travers la saga.
Absolument. Il y a tout ce côté-là de recherche de soi. Oui, on retrouve toujours l'amitié parce qu'on a un groupe d'amis qui sont soudés, qui vont... donner un petit peu plus de dynamisme aux Romains. Et puis, bon, beaucoup de relations de pouvoir avec les dieux qui vont venir influencer les événements. Mais tout ça, c'est quand même explicable par des éléments du roman au niveau de la mythologie de la fantasy, par exemple.
On peut même y retrouver, je pense, des voyages spatio-temporels. Donc, c'est des voyages dans le temps?
Exactement, c'est de l'espace-temps. Oui, on parle de l'espace-temps beaucoup. C'est une grande thématique. À ce moment-là, oui, il y a beaucoup de voyages. Edwin va voyager. C'est ça sa mission, c'est de voyager dans les autres mondes et de découvrir d'autres univers à travers des voyages spatio-temporels. Mais bon, ben, il va quand même souffrir parce que c'est pas évident de faire ce genre de voyage-là. Au niveau de physiquement, c'est lourd à porter. Et c'est un être qui se recherche aussi en tant que lui-même. Il comprend qu'il n'est que le serviteur d'une mission et il veut aller au-delà, il veut vivre.
Mm-hmm. Et au niveau de l'inspiration, quand est-ce qu'est venue l'idée d'écrire avec cette thématique le royaume, les voyages spatio-temporels, les dieux aussi?
Au début, j'ai commencé à beaucoup de poèmes sur la mythologie grecque. J'ai fait sur Eurydice puis Orphée. Et là, un proche m'a dit, mais à ce moment-là, mais fais un roman. Donc, j'ai décidé d'en faire 4 à la place. Et quand je l'ai fait, j'ai voulu vraiment pas partir tout définir. Il me fallait un monde qui est déjà préexistant. Avec la mythologie nordique, on a vraiment l'arbre gracile avec les 9 mondes et on a la capacité de pouvoir utiliser ces mondes-là et de pouvoir rajouter une histoire par-dessus. Mm-hmm. Donc c'est vraiment à partir de là que l'histoire a commencé.
Et pour les gens qui lisent autant le tome numéro 1, le tome numéro 2, à quel point les gens doivent avoir des connaissances sur la mythologie nordique pour suivre? Est-ce que c'est expliqué ou on doit avoir un peu de connaissances?
Pas du tout. Il y a des saints du monde pour aider, pour visualiser le chemin emprunté. Non, on n'a pas besoin de connaissances particulières. Si on en a, tant mieux, parce qu'on peut reconnaître des mondes. Par exemple, on sait que le monde des enfers, c'est le monde de Hel, de la déesse Hel. Si on a des connaissances, pourquoi pas, on va pouvoir être mieux dans le texte, on va pouvoir mieux l'imaginer, mieux se rentrer dans l'histoire, mm-hmm. Mais c'est pas nécessaire.
Donc on peut ne pas avoir de connaissances et être
Absolument.
Capable de suivre.
Oui, oui, oui.
Et au niveau des tomes, parce que le premier tome est déjà disponible, le second sera le 18 janvier prochain, est-ce que on doit avoir absolument lu le premier pour suivre?
Non.
Non?
Ils ont été faits de façon très indépendante, donc on peut lire le deuxième sans lire le premier. On comprend très bien. Il n'y a pas de nécessité à lire si par curiosité, si par intérêt. Oui, mais ils ont été faits de façon à exister seuls. Donc c'est une suite, mm-hmm. Mais ça se lit très bien indépendamment l'un de l'autre.
Parce que c'est un peu la suite des générations. Donc c'est pas les mêmes personnages exactement qui reviennent.
Il y en a qui vont revenir.
Okay.
Mais de toute façon, ça sera expliqué. La continuité sera expliquée. Ça va être expliqué et on va tomber dans une autre action, dans un autre type d'histoire. Donc, on sera pas le lecteur va pas être vraiment dépaysé ou complètement mm-hmm. perdu face à l'histoire. Il y a quand même des repères ou des moments où on peut réindiquer le passé. Et donc, oui, on peut reconnaître des événements qui se sont passés. Ça va aider beaucoup. On va comprendre aussi les buts des personnages, pourquoi ils font ça, les nostalgies de ces personnages-là. Ça peut donner beaucoup plus de détails, approfondir un petit peu plus l'histoire. Mais en tant que tel, ça peut être lu sans poser problème. Un l'autre, ça posera pas tellement de problèmes, mais ça peut enrichir.
Mm-hmm. C'est ce qu'on appelle une série, une saga familiale. Est-ce que ça veut dire que c'est pour toute la famille?
Oui, ça veut dire que le premier, on a le prince Osfried. Le deuxième, ben, c'est son fils Edwin. Le troisième, c'est encore le Edwin, puisque son histoire est beaucoup plus détaillée qu'Osfried. Et le dernier, c'est Chronoséos, qui est le petit-fils. Donc, c'est vraiment toute une famille, c'est l'histoire d'une génération, disons. C'est générationnel parce que bon ben on voit l'arbre générationnel les générations après. Mais je veux dire c'est pas encore terminé, les romans sont pas terminés en tant que tels, donc je veux encore garder les surprises pour la suite.
Voilà, parce que le second tome sort sous peu, mais il en reste deux autres ensuite à paraître.
Exactement.
Alors, il faut évidemment vous suivre, se procurer le premier tome qui est déjà disponible, alors que le second, Les Écrous du Temps Percé, sera disponible le 18 janvier, et il sera à la fois en formule papier et numérique.
Exactement.
Mais merci beaucoup d'avoir pris quelques minutes pour nous parler de votre parcours et de vos tomes aussi qu'on invite les gens, dont on invite les gens à se procurer.
Merci beaucoup, merci à vous.
Merci, je vous souhaite une belle fin de journée.
Bonne journée.
Bye bye. C'était l'auteur en ligne Mathilda Topé-Fortune. Le prince Osfried, c'est le premier tome qui est déjà disponible, le premier livre de la série de quatre que vous pouvez vous procurer, comme je le disais, en ligne ou en papier également. Alors que Les Écrous du Temps Percé, le tome 2, sera disponible sous peu et c'est un livre qui se lit très bien. Même pas 300 pages, en fait, si on comptabilise de cette façon. Et ça nous plonge dans un univers fantastique qui, selon moi, est aussi considéré comme étant un univers positif. Puis en ce moment, on a besoin de se changer les idées. On a besoin de lecture, on est confiné, il y a une tempête de neige qui s'amène. Qu'est-ce qu'il peut mieux y avoir que de la lecture pour nous changer un peu les idées et nous amener dans un monde fantastique, tout ça avec la thématique de la mythologie nordique qui suit là, tout au long de la série. Alors, je vous invite à vous procurer ces deux romans, le deuxième à partir du 18 janvier. On fait une pause dans les prochaines minutes. Votre bulletin d'information s'amène. J'ai un peu plus tard Marie-Chantal Toupin qui s'amène en musique, celle dont on parle beaucoup là, parce qu'elle fait partie de l'émission de télé, réalité, Big Brother, célébrité, puis on veut savoir qu'est-ce qui va se passer avec elle. Elle a été mise en danger après tout cette semaine. On en discute un peu plus tard à l'émission.
C'est le week-end, c'est comme elle!
Ce message s'adresse à l'ensemble de la nation québécoise. Nous devons agir avec force pour freiner la pandémie. Seuls les services essentiels demeurent offerts. Les rassemblements sont interdits. Il est défendu de quitter son domicile entre 20h et 5h le matin. Respectons le confinement et le couvre-feu pour éviter d'être infectés par le virus de la COVID-19. Pour protéger les travailleurs de la santé, nos proches et nos aînés. Car l'important, c'est la santé. Pour plus d'informations, visitez québec.ca/confinement. Un message du gouvernement du Québec.
Salut, c'est Coco de l'émission Coco Jazz. Je vous donne rendez-vous chaque mardi soir. On écoutera ensemble des nouveautés, des artistes de chez nous et toute l'actualité jazz. Mardi, ne manquez pas votre rendez-vous jazz sur les ondes de CKVL, le 100,1 FM.
Tous les jeudis de midi à 13h, on passe à l'acte. Une série radio-théâtre de 8 épisodes à ne pas manquer sur les ondes de CKVL. Laissez-vous plonger dans le monde du théâtre. Découvrez-y les époques marquantes, les thèmes bouleversants et les univers uniques des autrices et auteurs d'ici et d'ailleurs. En compagnie des artistes du théâtre de l'œil ouvert et de leurs invités spéciaux, on passe à l'acte dès le 14 janvier. Ce projet est possible grâce à l'arrondissement de la salle.
C'est le week-end, c'est comme elle!
Benoît D'Amico, et voici vos actualités. En manchette, aujourd'hui. André Huberdeau se dévouer pour l'alphabétisation. L'organisme La Théière poursuit sa mission virtuelle. Un tout petit singe nazi crée le malaise en Russie. Un résident de l'île des Sœurs, André Huberdeau, est candidat pour le prix Hommage bénévolat 2020 du gouvernement du Québec. Il s'implique auprès de la Fondation pour l'alphabétisation qui a pignon sur rue Wellington. Depuis 7 ans, M. Huberdeau est président du conseil d'administration de la Fondation pour l'alphabétisation. Pour aider, il a travaillé pendant presque 2 ans à faire venir des organismes spécialisés en alphabétisation dans la compagnie. À terme, les employés de longue date ont été capables de comprendre les ajustements à faire sur les machines. Une expérience marquante qui a motivé M. Huberdeau à travailler sur cet enjeu. Au cours des années, le bénévole de 70 ans s'est impliqué en donnant des conférences dans des centres pour personnes âgées afin de les sensibiliser à l'importance du lien entre les aînés et les jeunes. Un organisme lachinois visant à améliorer la qualité de vie des personnes de 50 ans et plus, Ressources Troisième Âge Lachine, a réajusté sa programmation pour offrir un service adapté à ses membres confinés. Un virage virtuel a dû être